marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
À la guerre, il est très important de reconnaître l'ennemi. Car sans ennemi, la guerre est ridicule.
Ce 9 mai, date anniversaire pour la Russie de la fin de la Grande Guerre patriotique. La guerre des partisans soviétiques.
En premier lieu, avant de commencer mon programme, j'explique à mes marins, en anglais évidemment, écoutez, voilà, c'est une chanson pour les partisans russes. Elle est en russe, vous n'allez pas comprendre, mais voilà de quoi il s'agit. Et je leur donne une petite traduction. Et j'entame la chanson. À ce moment-là, je la chantais en russe, en fredonnant, sans mélodie, et seulement en tapant sur la guitare le bruit des pas. D'une forêt à l'autre, la route longe le précipice, et lorsque j'ai terminé, il y eut un silence hypnotique.
Si quelque chose est passé en France de la mémoire des partisans soviétiques, c'est par le superbe chant interprété en 1943 par Anna Marley qu'on vient d'entendre. Mais la résistance française et la guerre dans l'immense zone soviétique conquise par les Allemands après l'opération Barbarossa, ce sont deux expériences incommensurables. Prendre le maquis chez nous dans la montagne, par exemple, n'équivaut pas, terme à partir en forêt. Les hommes et les femmes qui l'ont fait en Biélorussie, en Russie occidentale, en Ukraine, ont vécu des années littéralement formidables. Le premier sens du mot « formidable » avant « inspirer le respect », c'est « inspirer la peur ». Il faut savoir que la Biélorussie à elle seule a connu plus de 600 oradours. Nous sommes dans des terres de sang. Sang des victimes civiles, sang des combattants, sang des ennemis et des traîtres. Nous ne sommes pas dans l'épure de la résistance à l'européenne, le discours des droits de l'homme, l'universalisme, la liberté de l'individu. Nous sommes même au-delà du combat politique ou national. L'ennemi, c'est une engeance qui menace l'humanité même. C'est ainsi que la guerre va devenir une guerre de tous contre tous. Le partisan hérite du bolchevisme et aussi du langage messianique. Sans doute, est-ce un peu la même chose. Il vit, à la lumière des incendies, une apocalypse. Ce territoire désolé avait déjà englouti la Grande Armée en 1812. Il avait déjà connu l'occupation pendant la Première Guerre, puis la guerre civile, puis les horreurs sans nom du stalinisme. Et demain, aux confins, ce sera Tchernobyl.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Masha Serovitch, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Vous publiez un très beau livre, Les enfants de Staline, La guerre des partisans soviétiques, c'est aux éditions du Seuil. Alors vous avez longtemps été au centre d'études franco-russes de Moscou. Vous avez trouvé des archives, parce que les partisans écrivaient beaucoup plus qu'on ne l'imagine, dans beaucoup de fonds, dans beaucoup d'endroits.
Tout à fait, c'est des ressources en fait très très riches. J'ai commencé par travailler à Moscou et effectivement, là c'était évident, il y a un fonds qui s'appelle le fonds de l'état-major de l'état-major du mouvement partisan, donc les archives centrales. Mais en fait, ce que j'ai très rapidement constaté, c'est qu'il y a des fonds d'une extrême richesse dans ce qu'on appelait à l'époque les régions, donc en particulier les deux capitales biélorusses et ukrainiennes, Minsk et Kiev, où là on a vraiment des archives extrêmement riches venant des partisans, écrites au quotidien, des journaux intimes, des correspondances, tout ce qu'il faut pour faire vivre des territoires, les administrer et communiquer entre combattants.
Et puis il faut ne jamais oublier la perspective allemande, bien sûr, vous avez travaillé à Berlin. Les Allemands, juin 1941, la plus grande offensive militaire jamais lancée à cette date. Et l'armée soviétique qui plie, pour employer un euphémisme, et qui laisse, par exemple, des soldats encerclés, par millions peut-être.
Tout à fait, c'est cette fameuse stratégie du Blitzkrieg, la guerre éclair. Il faut vraiment s'imaginer cette avance fulgurante des Allemands qui balaient tout sur leur passage, balaient tout et donc encerclent par armée entière, par donc centaines de milliers de soldats, de façon répétée
des corps,
voilà, des unités russes. Et donc tout ça veut dire qu'on se retrouve dans un territoire où tout à coup des millions de ces soldats soviétiques sont certes soit faits prisonniers, donc là ils vont mourir en masse dans les camps de prisonniers à l'hiver 41-42, mais mais aussi, du coup, il y en a vraiment des milliers et des milliers qui sont dans la nature, qui errent de ci, de là, et qui ne savent plus ce qui se passe, qui ne savent plus où aller, ils n'ont pas de radio, ils n'ont pas de carte, la chaîne de commandement s'est effondrée, ils ne peuvent pas rattraper les blindés allemands qui sont en train de filer vers Moscou.
Et puis, les villages laissés à eux-mêmes. Ici, c'est un témoignage de Kavno qui a été recueilli dans un film d'Andreas Christoph Schmidt. Kavno se présente comme un jeune communiste. On va voir ce que vous entendez par jeune communiste.
Notre village est situé au bord de la rivière Bérézina. C'est là que des troupes de l'armée rouge ont essayé de barrer la route aux fascistes. Le combat a été bref, mais très violent. De grandes quantités d'armes ont été abandonnées sur le champ de bataille. Et nous, les jeunes communistes du village, nous sommes allés les récupérer pendant la nuit et nous les avons cachées sans savoir à quoi elles pourraient bien nous servir. Moi, par exemple, j'ai dissimulé un fusil et une caisse de munitions chez moi, derrière de grandes piles de bois, sans savoir ce que je pourrais bien en faire. On ne peut pas dire qu'on se préparait déjà à rejoindre les partisans, parce qu'à ce moment-là, on ignorait complètement comment tout ça allait finir.
L'assimilation fasciste allemand, on va voir que la mesure elle sera de plus en plus faite, et pas seulement par les communistes. Alors lui, il se présente comme un jeune communiste, sans doute se représente-t-il ainsi, mais les responsables communistes des villes et des villages, ils se sont évaporés. L'avance allemande.
Ils sont partis. Ils sont partis en masse parce que Staline et le gouvernement soviétique parvient à cet exploit d'évacuer l'essentiel de leurs ressources des territoires occidentaux. C'est ce qui permet à l'Union soviétique de tenir. Mais pour les gens qui restent sur place, ça veut dire qu'il n'y a plus personne. Minsk a été prise en quelques jours. Donc à la fin juin 1941, Minsk est aux mains des Allemands. À ce moment-là, Staline, on l'a même pas encore entendu à la radio. Vous imaginez, pour ces gens qui ont vécu toujours dans l'ombre de ce parti, dans l'ombre de ces communistes, tout le monde est parti, plus personne n'est là pour dire quoi faire, ce qui se passe.
La rumeur court que le maréchal s'est enfui, qu'il a disparu. Début 42, l'armée rouge commence à se ressaisir et émerge le phénomène des partisans qui existaient un peu en pointillés, mais très difficilement, pendant l'hiver. Et vous dites que c'est facilité par l'attitude et la manière d'administrer des Allemands. Alors, on sait qu'ils étaient assez doués pour la brutalité, mais vous insistez sur le fait qu'ils ont fractionné les zones administratives et que les partisans vont s'installer, j'aime bien l'image que vous utilisez, là où se croisent les champs des coqs des différentes provinces allemandes.
Tout à fait. Ils se glissent vraiment dans les interstices de ces zones d'occupation allemande, dans des zones de forêt, de marécages, où effectivement on est entre des pays, entre des régions, entre des villages, entre des zones allemandes. Et bien entendu, c'est comme ça qu'ils se construisent ce territoire inversé, ce territoire de la marge, où ils vont s'installer, les partisans. Et donc, effectivement, accompagner cette installation de toute une mythologie qui est celle, effectivement, que vous citez, puisque, évidemment, ce n'est pas moi qui déploie ces images, c'est des partisans qui produisent un imaginaire et une culture de la forêt et de l'interstice.
Alors, les camps de base sont organisés autour de chefs héroïsés. Il faut imaginer un archipel dans la forêt et les marécages, avec des fiefs, des sortes de villages ou de villes invisibles et paradoxales. Et puis, il y a les villages réels. Il faut insister aussi, parmi les sources de recrutement, sur les juifs des ghettos, les juifs qui habitaient les villages, qui vont pas toujours être très bien vus par les partisans, non ?
Tout à fait. Les juifs sont plus ou moins accueillis. Alors, il faut pas généraliser, ça dépend vraiment des brigades, des personnes. Mais plusieurs milliers de juifs, probablement 10 à 15 000, vont rejoindre les partisans soviétiques d'une manière ou d'une autre. Et vont parfois donc avoir leurs propres unités, mais parfois être en butte à un antisémitisme qui est, ma foi, fort répandu dans ces régions et ce depuis longtemps.
Voici le témoignage, on va emprunter beaucoup aux combattants de l'ombre, Arte, Bernard, Georges, il y a peu d'années, d'un juif qui s'appelle Baruch Shub. Alors, mais comment faire avec les villages?
Généralement, on demandait. Si ça marchait pas, on exigeait. Et sinon, on prenait de force. On prenait un sac de farine, un sac de pommes de terre là, ici un cochon, un peu de beurre, de fromage, etc., etc. Et on disait aux paysans, si on sent que la police ou les Allemands nous suivent, demain on revient et on brûle la maison. Les pauvres, ils étaient dans une situation terrible. Les Allemands leur disaient la même chose. Ils disaient, si les partisans viennent, vous devez nous prévenir immédiatement. Donc ils avaient peur des Allemands qui viendraient le lendemain et diraient, ah, les partisans sont venus et vous ne l'avez pas dit. Et ils avaient peur des partisans. Il y a eu des cas extrêmes où un village s'organisait, recevait des armes des Allemands et formait des brigades pour se défendre. Et les partisans arrivaient et ils nous tiraient dessus. Ils ne nous laissaient même pas approcher des maisons. Il y a eu des combats et souvent on a brûlé tout un village pour ça. On n'avait pas le choix.
De gré ou de force, dites-vous, Macha Serovitch, les habitants des villages devaient appartenir aux catégories nées de la guerre. Famille de soldats, famille de partisans, famille de victimes, famille de traîtres.
Tout à fait. Dans ces villages sourds, comme disaient les Russes, de ces campagnes du reste occidental.
Reculés, inaccessibles.
Voilà, inaccessibles, c'est des villages très pauvres, c'est des villages qui de toute manière sont déjà dans une économie de subsistance, de tout juste survivre dans ces années de guerre. Et donc, ils se retrouvent pris dans cet étau, cette double pression de ces camps, de ces Allemands et partisans, mais surtout, en fait, des policiers et partisans, les policiers, donc, que c'est la manière dont les partisans désignent tous les locaux, tous les soviétiques qui s'opposent à eux. Et ces deux camps, ces trois camps, font pression sur la population pour qu'effectivement elle s'engage à fournir à la fois les hommes, bien entendu, les hommes pour combattre, mais aussi les ressources nécessaires à cette guerre qui devient une véritable guerre civile, alors que la région s'engouffre dans une véritable apocalypse de violence.
Ce qui vous a peut-être étonné, Macha Serovitch, c'est que ces hommes et ces femmes, sans être du tout staliniens, sans apprécier particulièrement le pouvoir communiste dont ils avaient pu faire l'expérience dans les années 30, entre autres, restent marqués par octobre et ne vont jamais déjuger octobre. Ils sont des enfants d'octobre.
Oui, c'est vraiment flagrant combien toute leur culture, une culture qui est d'ailleurs très patriotique, dans un patriotisme parfois très traditionnel russe, est marquée par cet héritage révolutionnaire. Ils critiquent beaucoup Staline, ou plutôt les élites soviétiques des années 30, ces élites qui ont déçu et qui ont traumatisé le pays dans les années 30, et pour ensuite qui ont, de leur point de vue, trahi en 41, laissé le pays s'effondrer et qui les ont menés à cette catastrophe. Mais malgré cela, confrontés à l'horreur de l'alternative nazie, ils embrassent le rêve révolutionnaire. Ils croient à la possibilité véritablement d'une apocalypse, d'une dernière guerre qui enfin les amènerait vers un avenir harmonieux, un avenir radieux.
Alors, du côté de Moscou, où on a repris ses esprits, on doit regarder quand même ça, non sans inquiétude. Alors, l'État soviétique cherche à rétablir le contact. On est en 42 maintenant, alors vous racontez les parachutages, vous racontez les agents à pied.
Tout à fait. Il faut quand même vraiment avoir à l'esprit que les premiers envoyés de Moscou ne savent même pas où ils vont, qu'ils soient parachutés. Donc là, on a du parachutage, on les laisse sauter d'un avion à peu près n'importe où il y a des arbres. Voilà. Ou alors, effectivement, à pied, sur des kilomètres, sans savoir absolument ce qu'ils cherchent, ou qu'est-ce qu'ils vont trouver, où ils vont le trouver. Donc c'est vraiment c'est des aventures tout à fait extraordinaire.
Alors, ces petits proto-États avec des chefs héroïques, comment les faire rentrer dans le rang? Alors, l'État soviétique dispose de moyens. C'est lui qui peut fournir les explosifs, par exemple.
Ils fournissent.
Et puis un certain nombre d'armes.
Et c'est plus que les armes, les munitions, puisque c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut trouver. Les armes, on en trouve. Il y en a bien assez qui ont été laissées par toutes ces armées en 41. Et évidemment, les explosifs, ainsi que les spécialistes pour les utiliser.
Vous racontez, par exemple, comment se mettre en place d'une manière centralisée, avec une planification à la soviétique, la guerre du rail.
Oui, c'est un des grands épisodes de cette guerre des partisans qui est devenue mythique dans l'URSS d'après-guerre. La guerre du rail, c'est donc un programme qui est effectivement lancé par le gouvernement soviétique à l'été 43, mais qui est, de façon plus métaphorique, qui recouvre l'ensemble de cette immense campagne de sabotage des voies de communication allemandes à partir de 42. Et donc, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'on est sur des échelles et sur des chiffres qui n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve en Europe occidentale, puisque c'est à partir de début 43, un millier de sabotages par mois sur ces voies ferrées allemandes.
Alors, à vous lire, Macha Serovitch, on croirait presque que ça deviendrait routinier. Enfin, Baruch, notre ami de tout à l'heure, il dit quand même qu'il peut se produire des accidents.
La guerre des trains, c'est un plan qui décrétait que toutes les unités de partisans se voyait affecter une zone de voie ferrée sur laquelle il devait agir et faire sauter le plus grand nombre de trains possible. Une fois on a posé la bombe, le train approche, le train passe. Que dalle! Alors on ne sait pas si c'est le détonateur qui a flanché, mais on n'a absolument pas le droit, et ça c'était une loi. En aucun cas on ne devait laisser la bombe non explosée pour que les Allemands ne découvrent pas nos techniques.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Tous les petits soviétiques des années 70 connaissaient cette chanson du groupe Pesniari. Les partisans, les pins, le brouillard. Sur les sentiers, nous marchons à leur recherche, et quelque part dans le bourbier des marais est enterré le tonnerre refroidi.
Белый аист летит над полесьем, над тихим жнивьем. Где-то в топи болот погребен остывающий гром. Землю нашей любви, осеняя большими крылами. Молодость моя, Белоруссия, песни партизан.
Sur la guerre des partisans soviétiques de Macha Serovitch, un livre formidable au premier sens du mot qui fait peur aux éditions du Seuil. Cependant, dites-vous, on trouve des écrits très courants parce qu'il fallait communiquer d'une île à l'autre de l'archipel où apparaît une sensibilité, une poésie. Il y a des très beaux auteurs. Vous avez repéré un jeune journaliste de l'Intelligentsia qui va disparaître pendant la guerre des partisans, d'ailleurs, qui s'appelle Vinik.
Oui, c'est une de ces vingtaines de journaux intimes que j'ai pu exploiter, qui sont des documents absolument magnifiques. Et c'est vrai que Vinik, qui était un journaliste soviétique d'avant-guerre, donc qui arrivait de Moscou, qui était probablement au front en 41, et s'était retrouvé donc en Polésie. Et la Polésie, c'est vraiment...
Qu'est-ce que c'est la Polésie?
C'est une région de marais entre la Biélorussie et l'Ukraine qui a été asséchée lors des grands travaux des années 50, mais jusque dans les années 40, c'était un des territoires les plus arriérés de régions pas très développées. Même selon les standards soviétiques. Donc, il se retrouve dans cette zone qui est en plus une zone évidemment de génocide, puisque c'est une des zones où les Allemands vont commencer les grandes expéditions contre les Juifs, notamment en 41-42. Et donc, il va se retrouver là avec ses partisans à observer l'horreur de cette guerre, se souvenant d'un passé qu'il avait oublié, mais d'un passé de ses vacances passées à Odessa et à Yalta, du Bolchoï à Moscou, et en même temps confronté à l'absolue horreur qui est celle du nazisme tel qu'il se déploie dans les campagnes soviétiques.
Horreur, dites-vous, on va entendre un programme de choix. Vive la LVF, la Légion des volontaires français, que diffusait régulièrement Radio Paris. Oui, il ne faut pas oublier qu'à côté des Allemands, il y avait des comparses.
Il y a toute l'Europe. C'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est pas du tout une guerre juste germano-soviétique, encore moins germano-russe. C'est véritablement une guerre européenne, et ça, on l'oublie trop facilement, puisque, en particulier dans les territoires occupés, les Allemands déploient, bien sûr, les auxiliaires soviétiques, donc les gens qui ont été de gré ou de force, qui ont rejoint donc les Allemands, mais aussi donc des troupes hongroises, des troupes roumaines, des troupes italiennes, mais aussi, en réalité, véritablement, toute l'Europe, avec la Légion des volontaires français contre le bolchevisme qui est déployée en Russie et en Biélorussie, la division bleue espagnole, des unités hollandaises, belges, croates, slovaques, c'est véritablement toute notre Europe qui se déverse dans ces régions contre ces partisans.
Reportage depuis la caserne de Versailles de la LVF par un journaliste aux yeux grands ouverts de Radio Paris.
Alors, quelles sont vos impressions? Vous avez participé au dernier combat de la Légion?
Oui, j'ai participé au dernier combat. Ben, c'était assez dur à cause du foie.
Ben, je m'en doute. Vous aviez combien?
Le foie est descendu certains jours jusqu'à 45 en dessous.
Charmant. Et vous avez infligé beaucoup de pertes à l'ennemi?
2000 à 2500 partisans qui ont été tués.
En somme, la proportion est absolument formidable. C'est bien ce qui prouve qu'ils ont des pertes terribles en proportion de ce qu'ils obtiennent comme résultat.
Et nous sommes retombés dessus en revenant. Alors, ils étaient supérieurs en nombre, ils étaient environ 1500 et le premier bataillon.
C'est absolument extraordinaire. Je vois les camarades avec lesquels j'ai parlé tout à l'heure dans le tour. Et ils me disent presque tous qu'ils ne s'attaquent que jamais quand ils sont à moins à peu près de 10 contre 1.
En fait, nous parlons de 43 là, les pertes des partisans sont limitées et les principales victimes sont les civils.
Tout à fait, on a des pertes tout à fait limitées pour les partisans qui se reconstituent toujours très rapidement, mais à chaque fois véritablement des milliers de morts civiles. Et effectivement, la seule manière pour arriver à un chiffre de 2500 victimes, c'est que 90% d'entre eux, au bas mot, soient des civils.
Vous racontez l'opération Côte-Bus, mi-43. Je cite juste ceci, c'est un texte en vers venu de Vitebsk que vous avez retrouvé. Tu te souviens de la nuit de Noël, père, dans le feu d'incroyables incendies, ont trouvé une fin précoce tes fils et tes filles. J'ai vu une femme, jeune par les années, mais elle avait déjà les cheveux gris. Elle tenait une petite fille dans ses mains. La petite fille était morte, la mère ne le remarquait pas, elle parlait toute seule. « Venge-toi, Biélorussie, que la meute des loups se noie dans son propre sang noir. » Ça, c'est, vous insistez beaucoup, le vocabulaire de l'apocalypse.
Bien sûr, c'est la seule manière pour ces gens, ces victimes, pour ces personnes qui ont vu l'effondrement de 41, la mort de masse dans les camps de prisonniers, le génocide contre les populations juives, et maintenant les massacres systématique de civils qui s'en prennent donc qui laissent des villages dévastés, des incendies partout, des hommes, des femmes, des enfants morts ou déportés en Allemagne. La seule manière pour eux de faire sens de cette expérience absolument tragique, eh bien de le percevoir comme une apocalypse, un affrontement qui est effectivement celui de l'humanité contre la bête. C'est la bête qui s'est levée. Cette expérience-là du nazisme en 41, 42, 43 ne peut pour eux être véritablement que le signe d'un antéchrist qui s'est levé d'une fin de monde.
Nina Paredjna, un témoignage dans le film d'Andreas Christoph Schmidt.
En avril 1943, les unités arrivent dans le village de Nina Perednia.
Dieser Schlupfwinkel wird rücksichtslos ausgeräuchert.
Il y avait une grange immense. Ma sœur habitait là. Ils ont mis tout le monde dans la grange. Ma grand-mère était trop vieille pour pouvoir s'enfuir avec moi. Alors elle est restée à la maison, à prier devant une icône. Puis la polizei est arrivée. Ce n'étaient pas des Allemands, c'était la police de chez nous. Un membre de la polizei est venu chercher ma grand-mère pour l'emmener dans la grange. Les Allemands avaient encerclé le village. Mais là, c'était des villageois. Surtout des traîtres qui dénonçaient les autres aux Allemands. Celui-ci, c'est le chef. Et celui-là, il occupe tel poste. Et ils ont rassemblé tout le monde dans la grange. Ils ont tué tout le monde. Et ils ont mis le feu à la grange.
Rien qu'en Biélorussie, quelques 5000 villages incendiés et 638 incendiés de A à Z. Comme Oradour-sur-Glane, 638 Oradour-sur-Glane.
Et dans un pays qui, à l'époque, comptait 10 millions d'habitants.
Vous dites il ne reste que des cendres. Qu'est-ce à dire? Il ne reste que des deuils jamais achevés. Il ne reste que des cicatrices toujours ouvertes. Des territoires morts. Qu'est-ce à dire?
C'est malheureusement exactement ce que cela veut dire. Cette expérience qui était déjà incompréhensible dans la guerre même est devenue complètement insaisissable depuis, à la fois sous l'effet des transformations de ces régions-là, donc à la fois une culture paysanne qui a complètement disparu, d'une part. D'autre part, le cadre soviétique qui donnait sens à cette expérience nous est perdu aussi. Et la partition de l'URSS...
En état
indépendant, en nation qui se cherche et qui s'affirme, rend incompréhensible cette aventure soviétique des partisans. Et en dehors de ça, enfin en plus de ça, ce qui a en réalité aussi contribué à rendre si compliqué à comprendre cette expérience, c'est l'instrumentalisation par le Parti communiste dans l'après-guerre de cette lutte héroïque du peuple soviétique, c'est comme ça qu'il la présentait, qui était un discours purement propagandistique visant à effacer dans le discours de la résistance collective toutes les divisions très profondes de ces territoires, y compris des territoires qui avaient été annexés par l'URSS en 1939.
Et puis l'expérience propre des combattants qui se vivaient comme des communistes, mais pas nécessairement comme des militants disciplinés du parti. Alors à quoi bon tous ces mémoriaux partout? Vous êtes promené dans beaucoup de ces régions. Et votre impression à vous, si vous aviez une image à nous laisser?
Ce qui m'a vraiment marqué, c'est effectivement la dévastation de ces régions, de ces villages qui ont été victimes de tant de violences et de tant de conflits qu'il n'en reste pratiquement plus rien et qui sont incapables aujourd'hui de trouver les mots pour dire leur propre expérience tant ils sont sous la pression de différents discours, mémoriels dans des vraies guerres de mémoire que ce livre ukrainien, biélorusse, russe, pays baltes, enfin, ou différents baltes, autour de ces questions. Je me souviens de gens extraordinaires, de villageois extrêmement accueillants et en même temps qui étaient eux-mêmes complètement incapables de revenir sur l'horreur de cette expérience qu'ils n'ont jamais véritablement su transmettre ou expliquer.
Merci à vous, Masha Serovitch. Votre livre, Les enfants de Staline, La guerre des partisans soviétiques, c'est aux éditions du Seuil. L'émission a été préparée par Frédéric Martin et par Céline Loriou, à la technique Rémi Chistiaga, et la réalisation c'était Audrey Ripouille.